conférence. Merci pour votre présence. Nous sommes heureux d'être reçus dans cette maison. Nous remercions la mairie et la médiathèque d'Alès de nous accueillir encore dans cet amphithéâtre, de mettre à disposition ces locaux. Nous remercions tout particulièrement Franck Lestringan, qui nous a fait la joie d'accepter à nouveau notre invitation, qui est un habitué maintenant du cycle de conférences organisé par la librairie Jean Calvin. Cycle de conférences consacré cette année ou ayant pour thématique le protestantisme en voyage. L'année dernière, nous avions consacré le cycle de conférences au protestantisme et à la guerre en essayant d'explorer certains aspects de ce lien entre protestantisme et guerre, lien qui, on l'avait souligné, se résume souvent qu'à des aspects positifs, tout au moins dans l'inconscient collectif, et on avait tenté de montrer que ce lien était plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. Cette fois-ci, cette année, nous nous intéressons donc à ce lien entre protestantisme et voyage. Autrement dit, comment les protestants ont voyagé, peut-être pour leur plaisir, pour la découverte, on le verra sans doute un peu ce soir, avec les voyages des Huguenots au Brésil, en Floride ou au Canada. C'est le sujet donc de la conférence de ce soir, non seulement pour explorer, mais aussi pour évangéliser ou christianiser, hein, comme Franck Lestringan fait la distinction dans son livre publié chez Drault, Le Huguenot et le Sauvage. Mais le protestantisme en voyage ne se résume pas à cela, puisque les protestants ont contribué aussi, en tant que marchands, par exemple à La Rochelle, à faire voyager aussi évidemment les marchandises. Ils ont été des commerçants, les protestants de Normandie aussi. Les protestants ont été aussi contraints au voyage, ce sont les voyages d'exil, puisque vous savez qu'avec la révocation de l'édit de Nantes, beaucoup de protestants, à peu près 150 à 170 000 protestants, ont dû quitter le royaume, mais d'autres étaient déjà partis avant. Et puis, il y a aussi, outre le voyage des marchandises, des hommes, les voyages contraints, les voyages d'exploration, il y a aussi le voyage des idées. Et Patrick Cabanel viendra nous parler notamment de ce voyage des idées au XIXe siècle et comment les Huguenots français vont servir de passeurs pour transmettre à la société française les idées venant des pays anglo-saxons, notamment sur l'éducation, sur la pédagogie, sur l'école et ainsi de suite. Et puis on terminera ce cycle de conférences dont vous pouvez retrouver tout le programme. N'hésitez pas à vous servir. Nous avons publié ce fascicule qui est à votre disposition. On terminera avec le protestantisme en voyage aujourd'hui, avec la conquête ou la mise, la tentative de conquête des évangéliques, des néo-évangéliques, à partir de deux ouvrages qui sont parus récemment, l'Offensive évangélique, une étude sur jeunesse en mission, et une autre étude intitulée « Que ton règne vienne » par deux auteurs, deux sociologues qui viendront clore ce cycle de conférences en décembre prochain, décembre 2015, mais vous retrouverez donc tout ce programme sur ce fascicule. Vous verrez aussi qu'il y a quelques conférences hors cycle. Nous faisons venir cette année deux théologiens de renom, le professeur Paul Wells et le professeur Henri Blocher. Nous faisons venir aussi Henri Dedeux, qui est un professeur d'épidémiologie à l'Université de Montpellier, qui viendra parler des épidémies avec Henri Moisset du XVIIIe siècle, les dernières grandes épidémies en France en 1720, jusqu'aux épidémies aujourd'hui, avec Ebola, la grippe aviaire, et ainsi de suite, et toutes les conséquences pour nos sociétés. Et puis vous retrouverez aussi le programme des conférences de la librairie à Cholet, à Metz ou à Aix-en-Provence. Voilà, donc quelques mots pour vous présenter donc ce programme des conférences. N'hésitez pas à vous servir. Vous retrouverez ces programmes ici sur la table qui est à ma gauche. Alors, je suis heureux, donc je l'ai dit, d'accueillir ce soir Franck Lestringan. Franck Lestringan est ancien élève de l'École normale supérieure. Il est professeur à l'Université de Paris-Sorbonne. Il est plusieurs fois intervenu pour ses travaux justement sur les voyages de découverte aux États-Unis, à l'université de Yale ou de Columbia, je crois. Il est aussi récemment allé faire une conférence à Harvard. Voilà, donc c'est son sujet, un de ses sujets de prédilection, puisqu'il a aussi publié des ouvrages sur le 19e siècle, notamment avec deux biographies très reconnues et primées, notamment celle sur André Gide, qui a reçu le prix de la biographie de l'Académie française. Voilà pour la présentation de notre auteur et ami. Et je laisse la parole à Franck Lestringan.
Je voudrais tout d'abord vous remercier, remercier Franck Belloir de m'avoir réinvité à Montpellier. et puis vous dire aussi la tension dans laquelle nous avons vécu ces derniers jours à Paris. Nous sommes en ce moment dans une période assez terrible. Et nous venons d'apprendre à la radio. Bon, je pense que vous le savez que c'est terminé. Bon, malheureusement, avec un bilan assez élevé de morts. Mais c'est terminé. Je veux dire que ce qui se passe n'est pas étranger complètement à ce que nous pouvons dire. Les protestants ont longtemps été l'objet de semblables attaques, de semblables menaces. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a à nouveau cet esprit de, sinon de guerre civile, du moins de menace sur la vie de chacun d'entre nous. Et il faudra du courage. Je vous présente tous mes vœux, évidemment, en ce début d'année. Mais il faudra du courage, de la détermination pour lutter contre l'abjection, contre l'innommable. Voilà. Et je m'incline. Nous avions un ami parmi les gens assassinés mercredi dernier. Et je voudrais m'incliner devant leur mémoire et observer peut-être une minute de silence à leur propos. Plus drôle quand même que l'actualité dans laquelle nous vivons, mais qui se termine aussi, qui comporte, vous le verrez bientôt, des événements aussi graves et aussi désastreux et aussi insupportables à rappeler, mais qui sont plus éloignés que nous n'avons pas vécu, évidemment. Le huguenot et le sauvage aux Amériques, Brésil, Floride, Canada, entre condamnation et admiration. Donc on sait que l'Amérique a exercé une forte attraction sur les Français du XVIe siècle, comme sur les Anglais, comme sur les Espagnols ou les Portugais, mais particulièrement sur les protestants français. En effet, la plupart des ports de Normandie, par exemple Dieppe, Honfleur, étaient largement composés de protestants. Les flottes qui naviguaient sur la mer étaient penchées pour la réforme. Alors est-ce que c'était une réforme parfaitement établie? Est-ce que ils étaient tous calvinistes? Certainement pas. Mais le affranchissement de la religion catholique leur permettait la guerre de course contre les Espagnols. Et on va voir que la lutte coloniale entre la France et l'Espagne a pris des allures de guerre de religion à certains moments. Donc le premier épisode, enfin l'épisode le plus connu peut-être aujourd'hui, c'est l'épisode de la France antarctique, hein, quand Villegaignon fonde en baie de Rio de Janeiro, dans une petite île de la baie de Rio de Janeiro, l'île appelée aujourd'hui Villegaignon, qui a gardé son nom français, le nom de son colonisateur français, fonde une colonie qui dure 5 ans, hein, de 1555, de novembre 1555 à mars 1560. Cette colonie n'est pas une colonie religieuse, n'est pas une colonie strictement protestante, mais les protestants en font partie. Villegaignon, au départ, est un chevalier de Malte, donc un catholique, mais un catholique qui penche un peu vers la réforme, qui penche vers le luthéranisme. C'est un luthéranisant. Et comme sa colonie commence mal, il fait appel à Calvin. Pourquoi à Calvin ? Non tant parce qu'il est le chef de la réforme genevoise, mais parce que Calvin a été son camarade d'études à Orléans. Tous deux ont fait leurs études ensemble à Orléans. Ils ont étudié non pas la théologie, mais le droit à Orléans. Donc Villegaignon fait appel à Calvin, qui donc donne des instructions, et une colonie va être une mission, donc une sorte de mission, va être lancée donc en 1557 à partir de la France, à partir de Genève et à travers la France, où c'est évidemment Coligny, l'amiral de Coligny, qui finance le voyage de ces protestants français vers le Brésil. L'aventure, comme vous le savez, se termine mal, puisque très rapidement, Villegaignon, donc, au bout de quelques semaines de convivialité plus ou moins heureuse, s'efforce de rétablir le dogme catholique, notamment notamment lors de l'Eucharistie. Et puis, très vite, la colonie va se dissocier. Les protestants vont fuir de leur côté, vont regagner la terre ferme, où les accueilleront à bras ouverts les Toupinambas, ces fameux cannibales dont Montaigne parlera plus tard, hein, le point de départ de ce mythe des cannibales, de ces magnifiques cannibales qui mangent de la chair humaine sans doute, hein, mais on n'en parle pas trop, c'est justement cette concorde qui est apparue donc à la fin de l'année 1558 entre les protestants français, chassés par Villegagnon de l'île qu'il occupait et qui trouve refuge en terre ferme où ils vont vivre plusieurs mois au contact des indigènes. Et ceci va entraîner donc l'échec de la colonie. Ça sera une des causes de l'échec colonial de la France antarctique. France antarctique, pourquoi est-elle appelée ainsi ? Parce que c'est une colonie de l'hémisphère austral. Donc Antarctique veut dire tout simplement austral. Hein, c'est une colonie de la partie australe du monde, d'où Antarctique. Hein, c'est quasiment synonyme. Et en 1560, donc, la colonie tombe. Les protestants sont revenus avant cette date. Ils sont revenus dès 1558 en France. Et Léry a attendu 20 ans, 20 années exactement, 1558-1578. C'est en 1578 qu'il publie pour la première fois son histoire d'un voyage faire la terre du Brésil, qui est le texte le plus magnifique de la littérature de voyage du XVIe siècle, qui est un texte protestant, bien sûr, mais dont je vous recommande vivement la lecture. Ce texte a été publié en livre de poche, en langue originale, en orthographe du XVIe siècle, mais nous allons en donner une version révisée, modernisée, aux éditions Chandaigne, cette année, en principe. Cette année, en principe, devrait paraître une édition de l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry. Alors ce voyage de Jean de Léry, je vais en parler rapidement, il faut le mettre en rapport avec un autre voyage protestant. Ce n'est pas le seul voyageur protestant au Nouveau Monde, et ce n'est pas le seul voyageur protestant au Brésil. Léry est précédé, en effet, par un certain Hanstaden. Hanstaden, c'est un Allemand, évidemment, comme son nom permet de le voir, qui est l'auteur de la Wahrhaftige Historia und Beschreibung, qui est le Das erste Brasilienbuch, Akten des, etc. Alors ce livre de Staden n'est pas du tout comme Jean de Léry, un futur pasteur, un homme d'église. C'est un arquebusier, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, donc allemand, qui se met au service des colons portugais et qui est capturé, et qui tombe dans une embuscade, qui est capturé par des Indiens du Brésil et qui vit prisonnier des Indiens pendant presque un an. Hein. Alors il finit par... il a la chance de lancer une malédiction contre le chef qui veut le manger. Il est gardé en vie pour être engraissé, pour être mangé par la tribu qui l'a accueilli. Et puis un jour, il y a une éclipse de lune. Hein, il émet une prophétie. Il dit cette éclipse, eh bien, ça veut dire que tu vas bientôt mourir. Il dit ça au chef. Et effectivement, le chef meurt peu après. Et donc, c'est interprété comme un miracle, hein, non pas parce qu'il a sauvé quelqu'un, mais parce que sa parole de malédiction a porté ses fruits. Hein. Il a un pouvoir sur la nature, et les Indiens, à partir de là, se mettent à l'adorer, hein, et renoncent à le manger, et au contraire, lui accordent la vie sauve, hein, et veulent le garder parmi eux, hein, alors qu'il est prêt à partir, que les Français sont prêts à lui payer son voyage pour qu'il rentre en Europe. Il revient en Allemagne, puisqu'il est allemand, et sa vie durant, il va continuer ce qu'il faisait avant de partir, c'est-à-dire, c'était un spécialiste des armes à feu, hein, et du salpêtre notamment. Son père était cultivateur de salpêtre. Hein, il avait une mine de salpêtre, et avec le salpêtre, il fabriquait de la poudre pour les canons et pour les fusils. Hein. Et ce Hanstaden, donc, va continuer la fabrique de salpêtre de son père, et il va mourir âgé de 50 ans ou un peu plus, sans doute de maladie, d'une épidémie telle qu'il y en avait souvent. Mais Staden, donc, va publier en 1557, donc, à Marbourg, donc, dans une petite ville d'Allemagne, préservée des bombardements, heureusement, lors de la dernière guerre, qui est une petite ville magnifique, qui est un gros village, quoi, en quelque sorte, de maison à colombage. Il publie la Wahrhaftige Historia und Beschreibung, etc. Alors ce livre, évidemment, il ne l'a pas écrit. C'est un homme du peuple. C'est un arquebusier. C'est un homme... c'est un homme simple. C'est pas du tout un intellectuel. Et il le fait avec l'aide des spécialistes. Ce mercenaire au service des Portugais, il est donc savonnier, salpêtrier, alors dans son village natal, à Wolfhagen, et où il mourra, donc, âgé d'une cinquantaine d'années, de la peste. La peste, c'est-à-dire, ça veut pas dire grand-chose, ça veut dire c'est une maladie contagieuse, dont il y avait des épidémies régulières, et c'est ça qui entraîne sa mort. Alors le texte de Staden n'est pas connu en France à l'époque. Il est publié en allemand. Mais il a bénéficié... Staden a parlé autour de lui de ce qu'il avait vu, de ce qui lui était arrivé. Et il a été... son récit a été recueilli par un certain Johannes Driander, qui était professeur d'anatomie et de mathématiques à l'université de Marbourg, et qui a mis en œuvre et qui a mis en ordre ce que Staden lui a raconté. Donc Staden a raconté son voyage. Il a rapporté sans doute des dessins, les dessins qui sont gravés, donc une quarantaine, une cinquantaine de gravures qui ornent son récit et qui sont tout à fait fidèles à ce qu'on peut savoir des mœurs et Topinambas. Et ce texte a eu donc un certain succès, mais en Allemagne. Et à l'époque, l'allemand n'est pas souvent traduit en français. Il y a un problème. Les textes anglais ou allemands sont peu traduits en français. En revanche, il est plus facile, plus fréquent qu'un ouvrage français soit traduit en allemand, en anglais. Il y a une circulation des livres qui va plutôt dans ce sens-là, vers le nord de l'Europe, du sud vers le nord, que l'inverse. Les livres savants sont fabriqués pour l'essentiel en Italie, bien sûr, quelques-uns en France aussi, dans les Flandres. Et ces livres sont publiés en latin, mais quand il s'agit de témoignages, c'est dans diverses langues vulgaires, ils sont traduits, c'est à partir du moment où ils sont traduits en latin qu'ils acquièrent une certaine renommée internationale. Jean de Léry, par exemple, son texte va être traduit en latin, et c'est à partir du latin qu'il va connaître une célébrité européenne, dans les milieux cultivés, bien entendu. Tout le monde ne parle pas le latin, bien entendu. Staden, donc, il aurait pu lui arriver la même chose à partir de la publication, donc en 1557, de son livre, grâce à Johannes Driander, professeur d'anatomie et de mathématiques à l'université de Marbourg. Il n'a pas l'ambition qui habitera plus tard Jean de Léry, et il retourne à son commerce, à son industrie du salpêtre. Il va continuer dans ses mines de salpêtre. Il sera savonnier, salpêtrier à Wolfhagen avant de mourir malade de la peste. Alors, on a l'ouvrage de Jean de Léry. Il est probable qu'il l'a écrit seul, c'est ce qu'il dit du moins, mais il l'a écrit plus tard, il l'a écrit bien après Staden, et il a pu bénéficier de ce que les autres avaient dit avant lui. Et parmi ces autres, il y a Staden, mais Staden, il va le découvrir assez tard. C'est à la fin de sa vie, donc vers 1600, une fois que son livre est publié. C'est le professeur de Bâle qui le reçoit là, et qui a le récit chez lui de Staden et qui a également lu son texte. Et à partir de la comparaison des deux documents, il va établir que finalement, les deux hommes, l'un prisonnier, l'allemand est prisonnier, et l'autre, au contraire, indépendant ou plutôt fugitif de la colonie, ont connu les mêmes Indiens, ont décrit à peu près les mêmes choses. Alors, il y a entre les deux un troisième témoignage qui permet de compléter, d'enrichir la vision de Léry, c'est le témoignage d'André Tévé. Et c'est les singularités de la France antarctique, ouvrage que vous connaissez sans doute, qui a été republié chez Chandaigne. André Tévé, donc, est un moine cordelier et qui est l'un des plus humbles et des ordres monastiques de son temps. Et Tévé, comme Staden et un peu comme Léry aussi, est un homme du peuple, est un homme simple. Ce n'est pas au départ, ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui a une culture d'humaniste. Hein, il sait le latin, évidemment, comme tout moine de son époque, mais il ne sait pas le grec, bien sûr. Il a des ignorances absolument énormes qui apparaissent dans ses ouvrages et que ses adversaires ne manqueront pas de signaler par la suite. Or, Thévée a publié, donc, à son retour du Brésil, Thévée est allé au Brésil avec Villegagnon en 1555. Il est revenu dès 1556, au bout de 10 semaines de séjour, pendant lesquelles il était malade. Il est tombé malade. Il est revenu. Et il a publié aussitôt « Les singularités de la France antarctique ». C'est le titre de son livre « Les singularités de la France antarctique », qui est un livre tout à fait extraordinaire. Qui n'a pas eu le temps de rédiger lui-même, bien sûr. Hein, il a utilisé un nègre, un docteur en grec, qui l'a aidé, un certain Mathurin Héret. On connaît la chose parce qu'il y a eu un procès entre les deux hommes. Mathurin Héret a fait un procès, demandé l'interdiction du livre et la substitution de son nom, Héret, à celui de Thévée, et a demandé également la totalité des droits d'auteur. Or, le Parlement de Paris, à la suite d'un procès expédié assez rapidement, lui a donné raison. Hein, donc il a recueilli effectivement la totalité des droits d'auteur, ce qui prouve que l'ouvrage est bien de sa main, hein, c'est bien de sa rédaction, mais a refusé de réimprimer l'ouvrage, de modifier le titre. Et donc les singularités de la France antarctique sont donc toujours attribuées à Thévée et non pas à Héret, qui est le scribe qui a écrit l'histoire. Donc Léry, bien sûr, n'est pas au courant de tous ces détails, mais il le pressent, surtout que Thévée, par la suite, continue à écrire sur le Brésil. Il a recueilli de Villegagnon des informations de première main et il publie en 1575 une cosmographie universelle. Et ça explique la réplique de Jean de Léry en 1578, donc 20 ans après son retour du Brésil. Et il publie sa relation, qui est une réponse, en fait, à la cosmographie universelle de Thévée, dans laquelle Thévée attaquait les protestants. Hein. Alors il attaquait les protestants, et pour quelle raison? Il attaque les protestants en 1575. 1575, nous sommes 3 ans après la Saint-Barthélemy. Et c'est pas un hasard. C'est que Thévée, ainsi que j'ai pu c'est pas une certitude, mais j'en ai la supposition, enfin, assez ferme, Thévée a été protestant. C'est pour ça. Donc Thévée avait des amis protestants. Il avait gardé des amis protestants. Au début de sa carrière, il hésite entre les deux religions. Et puis très vite, quand il s'aperçoit que le protestantisme devient minoritaire et persécuté et ne gagnera pas en France, ne conquérera pas la majorité du pays et que tous les Français ne seront pas protestants, à ce moment-là, Thévée revient dans la religion. Alors ce cordelier girovague, comme je l'appelle, hein, qui a erré d'un continent à l'autre et d'une religion à l'autre, est tout à fait fascinant. Hein, parce que s'il attaque les protestants si violemment en 1575, c'est bien sûr pour se blanchir lui-même, pour faire oublier son passé des plus troubles entre les deux religions, hein, et avec un fort penchant pour le protestantisme. Alors pourquoi a-t-il été protestant à une certaine époque? Tout simplement par carriérisme. Hein. Le protestantisme lui permettait alors de s'affranchir de son ordre, évidemment, son ordre franciscain, qui était assez contraignant. Il était cordelier, donc il était moine franciscain à Angoulême, ce qui n'était pas forcément très drôle. Il avait été mis à l'âge de 7 ans. Depuis 7 ans, il était franciscain. Il était dans un couvent de franciscains à Angoulême. Ça lui a permis de s'échapper. Et surtout, donc, il pensait pouvoir faire carrière grâce à cela. Il était protégé par La Rochefoucauld, hein, le duc de La Rochefoucauld. Et puis il avait des intelligences avec toutes les grandes familles protestantes. Petit à petit, ces gens ont été éliminés, comme Coligny. Et Thévée s'est rétabli en dénonçant ses amis de la veille. Voilà. C'est pas très exemplaire comme comportement, mais c'est tout à fait habituel. Alors, chez ces trois hommes, donc, Thévée, Léry, Staden, donc, deux protestants, un catholique, mais ce catholique étant un crypto-protestant, je crois. Enfin, en tout cas, il a été, il a connu le protestantisme mieux qu'il ne le dit. Si on rapproche donc ces trois personnages, ces trois ouvrages, on a chez les trois l'absence des préjugés de la culture humaniste. Aucun des trois n'est un humaniste de la Renaissance. Ce sont des hommes du peuple, des hommes simples, qui écrivent simplement, naïvement, parfois, chez Thévet, il y a des erreurs, qui tiennent à sa naïveté. Donc une maladresse ou une incapacité à maîtriser les abstractions et les concepts de la théologie. Et en revanche, une attention extrême portée aux réalia, c'est-à-dire aux réalités, hein, aux réalités concrètes. La culture matérielle des Indiens Tupinamba est décrite dans ses moindres détails chez les trois auteurs et sous tous ses aspects. Vie quotidienne en temps de paix et de guerre, armes et parures, cuisine, la fameuse cuisine cannibale évidemment, la cuisine anthropophage, nourriture, mœurs matrimoniales, éducation des enfants, rites de sépulture et même un lexique et une grammaire Tupinamba. Les trois ont porté une attention à la langue des Indiens. Et les trois ont parlé au moins un peu le Tupinamba. Staden, pour Staden, c'était un besoin vital puisqu'il était prisonnier. Il était obligé d'apprendre la langue de ceux dont dépendait sa vie. Et finalement, ça lui a servi à être sauvé, finalement. Et les deux autres ont eu besoin de connaître le Tupi dès lors qu'ils ont été abandonnés. Léry a été abandonné par Villegagnon. Et pour échapper à Villegagnon, il s'est réfugié chez les Tupinamba. Alors ce qui est exact du point de vue documentaire, copié sur la réalité dans les gravures de Thévet, ce sont les objets, les naturalia, les artefacts, comme l'Igura Pémé ou l'épée massue, hein, une massue qui ressemble un peu à une rame, si vous voulez, hein, qui est plate, si vous voulez, une massue plate, la roue de plume que les Indiens portaient dans les grandes circonstances, ou le diadème que l'on remarque, par exemple, dans la scène de mise à mort du prisonnier. Dans ces gravures, André Thévet mêle plusieurs choses. Un peu comme dans les textes, si vous voulez. Mathurin Héret, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est son scribe, qui a écrit pour lui ses livres, Mathurin Héret greffe sur la matière ethnographique un habillage rhétorique humaniste, si l'on veut. Et c'est la même chose pour les gravures. L'ouvrage est illustré donc d'une quarantaine de gravures illustrant la vie des Tupinamba, illustrant ce qui est décrit. Alors les gravures, je ne sais pas si on pourra en montrer tout à l'heure, peut-être, mais on verra. Les gravures embellissent l'Indien. L'Indien est représenté selon les canons de l'anatomie classique. Ce sont des nudités grecques, si l'on veut, qui déambulent dans ces gravures sans aucun souci de réalisme. Les corps ne sont pas représentés de façon réaliste. Il y a un monde entre l'Indien représenté dans les gravures de Thévet et l'Indien réel, tel que Lévi-Strauss, par exemple, a pu le photographier. En revanche, ce qui est exact dans ces gravures, ce sont les artefacts, c'est-à-dire les objets fabriqués. Et parmi ces artefacts, j'évoquais la massue, la fameuse massue plate des Tupinamba, mais il y a aussi les bracelets, les colliers. Tous les objets ont pu être rapportés par les voyageurs, évidemment, circuler en Europe, meubler les cabinets de curiosité, et à partir de là, on a tout un inventaire extrêmement précis, extrêmement exact de ce que les Tupinamba pouvaient fabriquer, exporter, si vous voulez, ou échanger, lors des cérémonies de troc. Alors on peut prendre comme exemple une gravure qui représente une scène tout à fait étrange et fascinante que l'on trouve illustrée aussi bien chez Staden que chez Thévet et que chez Jean de Véry. Et cette scène, c'est la scène de salutation larmoyante. Alors qu'est-ce que c'est que la salutation larmoyante? Eh bien c'est quand un étranger arrivait dans un village ami bien sûr, on l'accueillait, on s'empressait auprès de lui et les femmes pleuraient abondamment. Hein, les femmes s'accroupissaient et pleuraient sur le voyageur. Alors pourquoi saluait-on l'étranger par des larmes? Alors l'explication est assez complexe, mais pour la résumer, on peut simplement considérer que l'étranger est considéré comme un mort, comme un revenant. C'est un revenant. L'étranger est un revenant, c'est un mort qui revient. Et comme on l'a perdu depuis longtemps, eh bien on le pleure. On le pleure de joie et de tristesse. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est plus membre du groupe auquel on appartient et qui vient d'un autre monde. Mais c'est un revenant qui vient honorer, en quelque sorte, ses descendants. Et c'est assez émouvant. Hein, c'est... Alors ça fait rire, évidemment, les voyageurs européens du XVIe siècle. Jean de Léry se cache la figure. Dans la gravure de Jean de Léry, on voit... C'est le seul portrait peut-être qu'on ait de Jean de Léry, mais on a un matelot avec le bonnet sur la tête. Enfin, il a un bonnet de matelot sur la tête, et on voit, il met sa main devant ses yeux pour cacher ses rires pendant que les femmes pleurent devant lui. Mais c'est tout à fait ça. Alors il est évident que Staden n'a pas été lu en France, du moins avant la version latine qu'en donnera Théodore de Brie dans le troisième volume des Grands Voyages en 1592. Alors il y arrive un moment où tous ces textes vont être mis... Certains de ces textes vont être mis en latin. Et à partir du latin, c'est comme un texte traduit en anglais aujourd'hui, c'est la langue universelle, donc les textes peuvent circuler. Staden est traduit donc en 1592 et inséré dans les Grands Voyages de Théodore de Brie. Également, ces gravures sont intégrées à son texte. Ces gravures sont refaites, mais inspirées des modèles qu'il donne. Et à ce moment-là, Staden et Léry sont mis en communication. C'est-à-dire que dans le volume qui paraît en 1592, on a le texte de Staden, résumé en latin, illustré, et à la suite, le texte de Jean de Léry. Les deux voyageurs protestants se trouvent réunis. Un aspect que je voudrais évoquer ici est la question religieuse. Les trois auteurs sont des chrétiens et des croyants. Leur vision du monde est en dernière analyse théologique. La création postule un créateur, et la diversité humaine, dont ils sont les témoins, se laisse aisément ramener à l'unité. Pour aucun des trois, il ne fait de doute que les Indiens du Brésil ne soient des hommes, en dépit de leur cruauté manifeste et de leur méconnaissance de Dieu. Alors ça, c'est un très très intéressant de ces relations, c'est qu'à aucun moment, les Indiens ne sont traités par le mépris. Il y a... Alors bon, c'est très délicat de parler de racisme. Hein, il n'y a pas véritablement de racisme au XVIe siècle, même s'il y a des textes espagnols en particulier, des textes de colons espagnols, extrêmement négatifs sur les Indiens. Mais c'est dans ces trois textes de Thévé, Léry et Staden, l'Indien est présenté sous un jour positif en dépit de sa méconnaissance de Dieu. Cruauté de ces Indiens, ils sont cruels, ignorance coupable de Dieu notamment, mais qui confirme leur appartenance au genre humain. Ils appartiennent donc à la descendance d'Adam, hein, qui a été maudite pour sa révolte, pour la faute. Ils ont commis la faute et en conséquence, ils ont perdu la mémoire de ce qu'ils savaient au départ. L'unité du genre humain, pour les trois auteurs, Einstein, Thévé et Léry, est le dogme intangible qui justifie la colonisation et l'entreprise missionnaire. L'unité n'est du reste pas incompatible avec la diversité, car le diable s'en est mêlé, bien sûr, le diable qui complique tout, et il a plongé l'humanité dans l'erreur, la poussant à adorer de faux dieux et à céder à ses passions criminelles comme le dévorant appétit de vengeance qui explique pour nos trois auteurs l'anthropophagie rituelle. L'anthropophagie rituelle, en effet, pour Staden, aussi bien que pour Thévé et Jean de Léry, c'est la conséquence du désir de vengeance. On a besoin de se venger et on mange son adversaire pour se venger complètement de lui. Hein, on mange celui dont on veut se venger. Même dogme chrétien en toile de fond est comme cadre général de la description anthropologique. Mais à partir de cette doxa commune, les attitudes se divisent relativement entre protestants et catholiques. Deux protestants, deux hommes qui sont restés protestants, Staden et Léry, s'opposent à un homme qui a oscillé entre les deux religions avant de se rabattre sur le catholicisme. La croyance personnelle occupe peu de place dans le monde bigarré d'André Thévé. C'est que la part de l'autobiographie des plus restreintes, évidemment, dans son livre, puisqu'il ne l'a pas écrit. Hein, c'est Mathurin Héré qui s'en est chargé à sa place. Son livre est surtout un magasin de curiosités plutôt qu'une relation de voyage ou une relation de séjour chez les Indiens. Et plus encore, dans la cosmographie universelle, il donne un tableau ethnographique. Ça a été recueilli pour lui, avant lui, par des truchements. Alors les truchements, qui étaient les truchements ? Alors le truchement, c'est un mot qui est resté en français. Mais le truchement désigne à l'origine un interprète. C'est un traducteur, celui qui sert d'intermédiaire. Le mot est d'origine turque, ottomane, et s'est exporté ensuite vers le Nouveau Monde. Donc les truchements qui vivaient au Brésil étaient des interprètes, apprenaient le tupinamba, apprenaient la langue, et ensuite, pour les navires qui arrivaient ensuite pour trafiquer du bois de Brest, par exemple, du bois de Brésil, eh bien, ces truchements servaient d'intermédiaire. En revanche, si la religion est relativement absente chez TV, pas totalement, mais assez réduite, elle apparaît omniprésente chez les protestants Staden et Leary. Encore faut-il distinguer entre l'un et l'autre, le luthérien Staden et le calviniste Leary. Leary est plus réservé que Staden par comparaison. La piété démonstrative de Staden, dans chaque gravure, à chaque jour, chaque moment, il prie. Il prie pour lui, évidemment, et pour les siens. Ça s'explique par les circonstances pathétiques de son séjour au Brésil. Il est prisonnier des Tupinambas et destiné à leur servir de nourriture, s'il n'y avait pas eu ce miracle de la lune que j'ai évoqué. En comparaison, le séjour de Jean de Léry en baie de Rio de Janeiro ressemble à une année de grandes vacances. J'exagère un petit peu. Le séjour de Jean de Léry n'a pas été si paisible que cela. Et il a affronté divers dangers qu'il retrace dans son livre, l'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil. Mais il avait quand même 22 ans à l'époque où il a fait ce voyage. À 22 ans, il était curieux, il avait envie de s'amuser et de voir et de découvrir. Donc, il n'était pas du tout dans les mêmes conditions que le malheureux Einstein. Pour Léry, les épreuves se rencontrent au début et au terme de sa narration. Au début, lors du différend survenu avec Villegagnon, lorsque Villegagnon chasse les protestants de son île, et au terme, avec l'épisode de la famine en mer, qui remplit deux chapitres de son voyage. Il s'embarque sur un navire qui s'égare sur l'océan. C'est facile de s'égarer à une époque où la boussole n'est pas du tout un instrument très sûr d'orientation et où les pilotes ne sont pas toujours à la hauteur de leur trajet. Donc leur navire, au lieu de revenir par la voie la plus courte, c'est-à-dire en remontant vers la Floride et de là en traversant l'océan, remonte jusqu'à Terre-Neuve à peu près, vous imaginez, et arrive en France avec deux mois de retard à peu près. Donc c'est la famine, la mort d'une partie des membres de l'équipage et un sauvetage in extremis. Staden, quant à lui, n'a pas eu le temps de prendre du recul par rapport à ses mésaventures brésiliennes, à la différence de Léry, qui publie sa relation 20 ans après son retour. Il reste que le fidéisme de Staden, sa fidélité à la foi luthérienne, apparaît plus spontané, moins réfléchi que la ferme foi de Léry. Staden est un homme du peuple, encore une fois. C'est pas du tout un intellectuel. Il n'a pas le temps de réfléchir sur ce qu'il a vu. C'est directement ses impressions de voyage qu'il rapporte et qu'il transmet donc à celui qui les consigne. Léry, quand il publie son voyage, et il l'a sans doute remanié jusqu'à la publication en 1578, est devenu pasteur de l'Église réformée à son retour. Donc il a fait des études de théologie assez rapides. Et il est devenu pasteur de l'Église réformée dans les années 1560, au début des années 1560, quand la réforme paraît devoir devenir la religion dominante en France. C'est une explosion du protestantisme à ce moment-là qui va ensuite se restreindre au fur et à mesure des guerres de religion. Et Léry, donc, a eu tout le loisir de réinterpréter pendant les 20 années qui séparent son retour de la publication de son voyage, il a tout le loisir de réinterpréter son aventure personnelle à la lumière de l'Écriture sainte. Donc c'est un texte éminemment réfléchi, éminemment médité. Tel passage de son histoire d'un voyage sur la terre du Brésil, relatif au livre du monde et à l'aveuglement des Indiens incapables d'y lire, hérite de l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin. Dans l'institution de la religion chrétienne, Calvin donnait toute une série de références scripturaires et il disait comment l'homme, comment l'humanité avait perdu le sens de la lecture du réel, le sens de la lecture de la nature. Si l'homme était resté fidèle, s'il avait gardé en mémoire son la connaissance de Dieu telle qu'il l'avait reçue au départ, puisqu'il a été créé par Dieu, bien entendu, eh bien, nous n'en serions pas arrivés là. Mais l'humanité a connu de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, une sorte d'étrangement progressif par rapport à la parole divine. Et il a fallu donc le Christ, il a fallu la rédemption, il a fallu donc la venue du Christ pour que ce rapport entre Dieu et les hommes soit restitué. Je laisserai ici de côté la question du cannibalisme et du symbolisme eucharistique, mais on pourrait peut-être en dire juste un mot. Ce qui paraît important chez les trois auteurs, et surtout chez Staden et Leary, c'est l'élection du fidèle par Dieu. Le protestant, le chrétien réformé ou le chrétien luthérien, étant exposé au plus grand danger, à l'autre extrémité du monde, a ressenti jusque dans sa chair cette dépendance où il était de la grâce. C'est le sola gratia luthérien hein, qui pour Staden, constitue le miracle permanent. C'est grâce à Dieu qu'il est sorti d'une situation où il était promis à devenir la nourriture des cannibales. Staden et Leary, au cours de leur séjour mouvementé au Brésil, ont expérimenté l'un et l'autre, par des voies divergentes, donc cette épreuve. Et ils ont pu expérimenter également que l'Éternel, pour reprendre le cantique d'Anne, mère de Samuel, que cite Léry, hein, qui est cité dans le texte de Jean de Léry, à la fin de son histoire, est celui qui fait mourir et fait vivre, qui fait descendre dans la fosse et en fait remonter. C'est la grâce seule qui sauve et qui fait vivre. Telle est la leçon que les deux voyageurs retirent d'une aventure qui, dans les deux cas, décide du sens de leur existence et de leur vocation, de la vocation de Léry. Léry ne fait pas d'études de théologie au moment où il va au Brésil. Il est cordonnier. Hein, il part au Brésil en tant que cordonnier. Et il revient en tant qu'étudiant en théologie, futur pasteur, hein, et futur rédacteur de l'histoire d'un voyage faire la terre du Brésil. En 1592, donc je l'ai dit, Théodore de Brie, protestant de Liège, réfugié à Francfort pour des raisons de persécution, publie donc dans un même volume les relations de Staden et de Leary. Et surtout, il accompagne ces deux relations d'une série d'images sans discontinuité. Par leur expérience commune du cannibalisme Tupinamba, Staden et Leary représentent deux figures complémentaires, protestants tous les deux convaincus de leur élection et de la malédiction corrélative attaché à la descendance maudite de Cham, qu'incarnent en face d'eux les Brésiliens anthropophages, ils ne s'en sont pas moins trouvés plongés dans deux situations diamétralement opposées. D'un côté, Staden a failli être la victime contrainte du festin cannibale, et Leary a failli être le fidèle convive, le convive consentant. Hein. Staden a failli terminer en tant que victime et Leary en tant que convive. Donc Staden, mercenaire allemand, décrit l'anthropophagie parce qu'il la voit s'exercer devant lui. On lui dit « Tu vas mourir comme ça ». Et il voit abattre des prisonniers et qui sont mangés, effectivement. Alors il pleure en voyant ses compagnons mourir sous la dent des Indiens anthropophages, ceux que Montaigne appellera les cannibales, mais qui étaient en fait des Tupinambas. Alors que Leary a une expérience toute différente, hein, au lieu de traverser cet itinéraire christique qui va de la passion à la rédemption, hein, le récit de Staden est assez bouleversant parce qu'au départ, c'est la victime, c'est celui qui, qui doit connaître ce destin de victime, qui implore vainement ses ennemis dont il est prisonnier. Et à la fin, c'est plutôt le rédempteur, c'est le guérisseur. Il a des pouvoirs magiques et il exerce un véritable culte chez les Indiens. On a, en quelque sorte, chez lui, dans sa relation, j'employais l'expression qui est un peu osée peut-être, l'itinéraire d'un Christ naturiste. C'est une sorte de Christ naturiste qui accomplit un itinéraire presque christique au Brésil des mangeurs d'hommes, et il porte témoignage de sa rédemption à la fois physique et spirituelle au pays des mangeurs d'hommes. Les titres de certains chapitres sont révélateurs. « Comment Dieu fit un miracle »,« Comment un jour que j'étais à la pêche avec deux sauvages, Dieu fit un grand miracle pour moi à l'occasion d'un orage », etc. On a une série de miracles. Le miracle le plus extraordinaire, c'est celui de la lune, de l'éclipse de lune, c'est une circonstance qui est reprise dans d'autres fictions. On trouve ça chez Tintin, par exemple, dans le Temple du Soleil. C'est tout à fait extraordinaire de trouver ça dans ce texte du XVIe siècle. Finalement, Staden attribue toute la gloire au Créateur. Et s'il rapporte dans les moindres détails son invraisemblable histoire, ce n'est pas pour s'amuser à dire des choses extraordinaires, je cite, mais bien pour faire éclater les merveilles que Dieu a faites à son égard. Non pas s'amuser à dire des choses extraordinaires, même si son histoire est extraordinaire, mais pour faire éclater les merveilles que Dieu a faites à son égard. L'Odyssée de Staden doit donc être lue comme le chemin d'une rédemption et comme la répétition de la geste christique. Il découvre dans le soin que la providence divine emploie à le maintenir en vie la preuve irréfutable de son élection. Staden est du petit nombre des élus de Dieu qui, par la foi seule et non par les œuvres, s'est vu reconnaître ce privilège d'un choix qui le sauve pour l'éternité. Cette sainte candeur de Staden, cette sainte candeur de l'arquebusier de Hamburg, n'est toutefois pas dépourvue de roublardise. Tous ses ennemis personnels sont punis par Dieu. L'esclave qu'il avait calomnié devant ses maîtres est mangé à sa place. Le chef indigène qui voulait par-dessus tout sa mort tombe gravement malade. Quant aux truchements français qui, non sans quelque cynisme, avaient recommandé aux Indiens de le manger, de le sacrifier, on apprend in extremis, à la toute dernière page du récit, qu'il a péri en mer. Donc les méchants sont punis et les justes sont sauvés. Une action de grâce conclut ce récit à la logique manichéenne qui, d'un bout à l'autre, a constitué la figure du cannibale comme le négatif absolu de l'humanité rachetée. Tout autre est évidemment la position matérielle de Jean de Léry, même si, en définitive, ses conclusions quant au destin de la société indigène tendent à rejoindre celle de Staden. Loin d'être réduit à la triste condition de prisonnier de guerre, Léry est l'hôte fêté des Indiens anthropophages. Le seul risque qu'il encourt est d'être le commensal, non la victime de cela. Dans les deux dernières années de l'année 1557, qu'il passe dans les tribus Tupinamba de la baie de Rio de Janeiro, la baie de Guanabara, traditionnellement allié aux Français, il partage en tout la vie des Tupinambas, cannibalisme exclu toutefois. Un soir, il est invité donc à participer au caouinage, ce qu'il appelle le caouinage, c'est-à-dire quand les Indiens se mettent à boire leur caouin, une sorte de bière de maïs qui est macérée par les femmes, recrachée dans une grande calebasse et préparée comme ça au fil des jours. Et ensuite, les Indiens boivent de ce caouinage. Ils caouinent, quoi. Ils caouinent. Ils s'enivrent donc en buvant du caouin. Alors il est plongé lui-même. Il arrive à la suite d'une excursion assez harassante. Il arrive un soir dans une tribu où l'on caouine après avoir sacrifié un prisonnier. Et il essaye de dormir malgré tout dans son hamac au milieu de la fête. Et au milieu de la nuit, il est réveillé par un sauvage qui brandit au-dessus de lui un pied humain cuit et boucané. Bon. Vous imaginez l'horreur que ça suscite chez lui. Il est réveillé en sursaut. Et tout le reste de la nuit, il passe son temps à trembler. Hein. Il a peur d'être mangé de la même façon, évidemment, et de finir sous la forme de ce pied qu'on tend à un invité. Et alors c'est seulement au matin, il raconte au truchement qu'il a fait venir dans cette tribu, il lui raconte son horreur et le danger où ils sont. Et l'autre s'esclave de rire et traduit ses propos aux Indiens et qui tous se moquent de lui en disant qu'au contraire, on voulait lui faire goûter ce plat magnifique et non pas le transformer en nourriture, bien évidemment. Hein, on voulait l'associer à la fête et non pas le condamner. L'esclave Staden redoutait d'être mangé. Léry, homme libre et ami des Tupinambas, a constamment peur de devoir ingérer la chair défendue. Le tabou cannibale est donc envisagé dans l'un et l'autre cas depuis des points de vue strictement complémentaires. Mais le triomphe de l'interdit rapproche ces deux destinées. Léry parvient à surmonter, grâce à Dieu, son envie-phobie. Staden échappe, grâce à Dieu aussi, bien évidemment, en vertu des pouvoirs surnaturels qui lui ont été temporairement conférés, à la dent de ses maîtres voraces. Le retour de la loi dans les deux textes met fin à l'expérience ethnographique contrainte, en même temps qu'il assure aux témoins survivants et respectueux de ses valeurs l'inébranlable conviction de sa propre élection. Le privilège qui échoit à celui qui a triomphé d'une manière ou d'une autre de l'épreuve cannibale ne se mesure pas seulement à la vie qu'il a conservée, mais à cette autre vie qu'il a acquise pour l'éternité. Dans les aventures respectives de Staden et de Léry, l'épisode anthropophage, quelle que soit la manière dont il est vécu ici et là, constitue une épreuve initiatique, un authentique rite de passage, celui qui leur permet d'accéder, à travers le risque assumé de la mort, à une autre existence. Tous deux revivent, pour leur compte personnel, cette imminence de la dévoration figurée dans le mythe de Jonas. Hein, Jonas a été avalé et eux ont failli être avalés non par un poisson, mais par l'ennemi. Tupinamba, l'ennemi Tupinamba pour Staden, ou l'ami Tupinamba, mais un ami dont on a un peu peur, un ami un peu dangereux quand même. Hein, il faut se méfier parfois de ses amis. Le ventre du cannibale remplace celui du poisson monstrueux. Être englouti par Jipipo Wasu, le chef gourmand et rancunier pour Staden, par ses propres appétits pour Léry, il a failli manger. Hein. Manger de la chair humaine ou être mangé, manger de la chair humaine, c'est quand même un risque assez mortel. Hein. Eh bien tout cela a été conjuré grâce à la foi chrétienne. Désormais, il apparaît clairement, au terme des deux textes, que ni Léry ni Staden n'ont quoi que ce soit à voir avec cette sinistre histoire de cannibale. L'Européen, huguenot ou luthérien, bourguignon dans le cas de Léry ou essois dans le cas de Staden, n'y prend pas la moindre part, ni comme victime, ni comme bourreau. Telle serait la leçon à dégager de ce diptyque hein, composant la Tertia Pars Américae publiée par Théodore de Brie en 1592. La seule manifestation de l'occidental dans la séquence anthropophage, c'est la figure tour à tour suppliante et horrifiée de l'infortuné Staden. Mais ces pieuses simagrées qui amplifient les indications scéniques que comportaient les bois originaux de la Varaftige Historia, la véritable histoire de Staden, exprime l'emphatique désaveu d'un tel spectacle. C'est en témoin forcé et contraint que Staden assiste à l'acte inavouable qui consiste à manger de la chair humaine. Jean Léry, qui prit une part moins dramatique au banquet anthropophage, n'est présent à aucun moment dans la représentation du rituel. Du reste, en dehors de la scène du Grand Boucan, où c'est encore l'arquebusier nu et indigné qui se trouve convoqué, les planches illustrant la relation de Léry constituent la reprise pure et simple de celle qui avait déjà servi pour Staden. Donc on voit Théodore de Brie qui réunit les deux destins, celui de l'Allemand, celui du Français, celui qui a failli être mangé et celui qui a failli manger de la chair humaine. Alors que se passe-t-il après ces deux récits dont la lecture est tout à fait recommandable, mais auquel vous pouvez avoir accès? Le récit de Staden a été publié aux éditions du Seuil, en livre de poche, en point seuil également. Donc vous pouvez le lire en poche. Et le texte de Léry est publié au livre de poche, d'ores et déjà. Sera traduit en français moderne cette année chez Chandaigne. Vous pouvez donc les lire. Que se passe-t-il ensuite entre les protestants et les Américains, et les sauvages d'Amérique? Alors il y a une entreprise, une nouvelle entreprise qui est tentée dans les années 1560. Je vais terminer par là, enfin en finissant un petit peu plus tard, mais ma conclusion est proche désormais. C'est l'expédition, les trois expéditions françaises en Floride. La Floride est un territoire intermédiaire entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est une terre qui n'a pas été qui a été longée par les Espagnols, qui a été explorée par les Espagnols, qui n'a pas été vraiment colonisée par les Espagnols, qui n'y ont pas d'établissement fixe. Et Coligny, l'amiral de Coligny, a soudain l'idée de fonder une colonie protestante au Nouveau Monde, en Floride. Alors au Brésil, je l'ai dit, ce n'était pas tout à fait une colonie protestante. Villegagnon avait montré son inclination pour la réforme. Il a fait venir des réformés, mais tous les membres de sa colonie, tous les colons de la France antarctique n'étaient pas des protestants. Et en ont été rejetés, finalement. En Floride, c'est différent. Ce sont des protestants normands de Dieppe, de Honfleur, d'Harfleur, qui vont affluer dans cette colonie. La colonie est fondée en 1562. Elle périt de révolte, de famine. Ça finit mal. Elle est relancée en 1564. Et en 1565, est détruite par l'intervention espagnole. Les Espagnols, en effet, ont vu que l'occupation par les Français de la Floride était un danger, était une catastrophe pour eux. C'était une menace directement portée au trafic des galions, la fameuse Carretera de las Indias, la fameuse route des galions qui ramenait l'or du Nouveau Monde, donc qui constituait la richesse de l'Empire espagnol, risquait d'être brisée. La Floride est comme une dent, comme une menace directe pour les Espagnols. Donc les Espagnols répliquent immédiatement. Et en septembre 1565, ils lancent une expédition éclair, très efficace. Et tous les Français surpris sont massacrés, systématiquement. Il y a un massacre systématiquement des Français. Ceux qui arrivent à jouer de la flûte ou à montrer qu'ils ne sont pas protestants, on les vit sauves, mais sont réduits en esclavage. Donc c'est une histoire absolument atroce. Il y a entre 500 et 1000 morts. La colonie est fondamentalement détruite en 1565. On peut dire que c'est la fin du rêve de Coligny. C'est la fin du rêve protestant au Nouveau Monde du côté français. Ce sont les Anglais qui ensuite vont prendre la relève. À partir de l'échec floridien, à partir de l'échec protestant essuyé face aux Espagnols. Et les Anglais, eux, sauront répondre à la menace espagnole par l'intermédiaire de Francis Drake, Sir Francis Drake, qui va se battre, qui se bat déjà contre les Espagnols. Donc les protestants seront vengés. Finalement, il y aura l'expédition de vengeance de Dominique de Gourgues en 1568. Et les fortins espagnols seront à leur tour détruits, comme l'avaient été les fortins français. Mais il se trouve qu'il y a une cause qui vient renforcer l'échec français. C'est les guerres de religion. Coligny est engagé désormais à partir de 1562. Il est engagé dans les guerres de religion. Il ne peut plus mettre le poids principal de son action dans la colonie. Et après l'échec de la Floride, on est bien obligé de constater qu'il a mal calculé. Quand même. Il y a une erreur stratégique qui est faite. C'est qu'il a beaucoup risqué en ne prenant pas les précautions nécessaires, puisque la colonie a été détruite en un temps record. Et il se trouve donc embarqué dans les guerres de religion. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de tentative de colonisation au Nouveau Monde. Et il n'y aura plus de colonies protestantes à partir de ce moment-là. Alors il y a un dernier personnage qu'il faut évoquer tout de même. Ça ne veut pas dire que les protestants ne s'intéressent plus au Nouveau Monde. Il y a toujours des commerçants, il y a toujours des négociants, et il y a toujours des capitaines. Et le plus connu, est encore à venir, c'est Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, on le sait par son prénom et par son acte de baptême, est un protestant. Un protestant, alors converti au catholicisme assez tôt, et c'est en tant que catholique, bien sûr, qu'il va pouvoir présider au début du Canada français. Mais désormais, le protestantisme est une chose terminée pour la colonisation française, et ce seront à d'autres puissances européennes, notamment l'Angleterre ou la Hollande, de prendre la relève des Français. Merci.
Bien alors Franck, merci beaucoup pour cette très belle étude de l'implantation huguenote au Brésil. On retiendra les Kawinas, c'est ça ? Kawiné ?
Ah oui, Kawiné, oui.
On évitera les Tupinambas pour ne pas finir boucané. Voilà, je suppose que cette conférence a suscité des questions, des remarques. Alors évidemment, une des premières questions, peut-être avant de laisser la parole, c'est ces huguenots ont tenté de s'installer en terre nouvelle, en fondant une colonie au Brésil, qui n'est pas toute huguenote, mais tout au moins en partie, une autre en Floride. Quelle est leur position, puisque Jean de Léry ou Staden ont une interprétation théologique, quand même, de leur aventure. Hein, au-delà de l'ethnologie, il y a une relecture théologique derrière le texte.
Ouais.
Quelle est leur volonté, au-delà de la colonisation, est-ce qu'il y a une volonté d'évangélisation? Est-ce qu'il y a une volonté de christianisation de ces terres? Certains Espagnols voulaient plutôt christianiser qu'évangéliser, hein, c'est-à-dire faire venir des migrants, déjà chrétiens, pour s'installer en tant que colons dans ces terres. Ou est-ce que les protestants, eux, avaient une vision plus évangélisatrice, c'est-à-dire tenter d'annoncer l'évangile et de transformer ces sociétés indiennes?
Alors on peut peut-être partir de l'exemple de la Floride que j'ai évoqué très rapidement. On sait que ce sont des protestants. Ils ont été massacrés, d'ailleurs, par les Espagnols, parce qu'ils étaient protestants. C'est un Espagnol, en quelque sorte, qui est formé par les jésuites, enfin, qui mène une guerre mais épouvantable, et qui accepte la reddition des Français en termes suffisamment ambigus qu'ils ne se parjurent pas en massacrant les Français. C'est terrible. Alors, j'ai parlé de Dominique de Gourgues. Un gentilhomme catholique, donc, qui vient venger les protestants et qui massacre un certain nombre d'Espagnols en 1568. Et Dominique de Gourgues se fait reconnaître des Indiens en chantant des psaumes. C'est pour dire que, voilà, les Indiens leur demandent « Mais vous prétendez être nos amis, mais prouvez-le et chantez-nous les psaumes que nous chantaient les Français qui étaient là ». Les Huguenots. Et c'est deux ans après, ou trois ans après, hein, 1568, trois ans après la chute de la colonie. Donc il n'y a plus de Français, ils ont tous été massacrés. Alors il y en a quelques-uns qui ont disparu sans doute dans les tribus indiennes. Mais il y a eu donc une imprégnation des Indiens par le protestantisme, enfin par l'Évangile. L'Évangile a été prononcé devant eux. Et ils ont appris les psaumes. Ils sont capables de reconnaître les bons Européens des mauvais. D'après les psaumes. Les bons Européens chantent des psaumes. Et alors, Gourgues chante des psaumes, évidemment. Alors Gourgues, j'ai dit qu'il était catholique. Oui, enfin, il a peut-être été entre les deux religions. Il a sans doute été un peu des deux côtés, sans doute. Et ces hommes chantent des psaumes. Et les Indiens sont convaincus que ce sont des bons Européens. Ce sont des alliés. Et ils font la guerre ensemble contre les Espagnols. Parce que Gourgues n'aurait pas réussi son opération de vengeance sans le support des Indiens, bien sûr. Il faut dire aussi, malheureusement, que les Espagnols n'auraient pas réussi à liquider la colonie protestante si les protestants avaient pu compter sur les Indiens. Mais les Indiens les ont livrés. Ça, c'est compliqué. C'est difficile de garder la fidélité d'une alliance quand on doit survivre, tout simplement, dans un pays. L'histoire de la colonie est perdue par la façon dont elle vit. Elle vit au crochet des Indiens et en les exploitant parfois très violemment.
Est-ce que la colonie amène avec elle des pasteurs?
Non. Alors c'est ça qui est étonnant. Il n'y a pas de pasteurs. C'est étonnant.
Ils ne font pas comme les catholiques qui amènent des
non.
missionnaires, des jésuites.
Alors le simple fait qu'il n'y ait pas de missionnaires, effectivement, c'est déjà un signe pour les Espagnols, par exemple, que ce sont des protestants. Il n'y a pas de gens qui célèbrent le culte. Alors au Brésil, c'est Villegagnon qui le célèbre. Et puis à la fin, ça ressemble de plus en plus à des messes. Ça ressemble plus à une messe qu'à un culte protestant. Mais en Floride, alors on sait moins de choses, mais il n'y a pas de pasteur. On ne pense pas qu'il y ait de pasteur. Donc les gens célèbrent leur culte spontanément. Hein. Ils ont leur Bible, ils ont leur psaume, et les Indiens les reconnaissent à ce signe.
Est-ce que vous avez des questions?
Avec trois ans après.
Une question qui me brûle les lèvres. On lit chez Jean de Liry que les Américains et les Français
oui.
communiquent donc grâce aux interprètes.
Oui, aux truchements. Oui.
Les truchements. Je crois me souvenir qu'ils étaient normands pour la plupart.
Oui.
Ils ont une facilité pour apprendre la langue toupie.
Je ne sais pas. Je suis normand moi-même. Alors je ne sais pas. Je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. Mais non, il faut savoir que. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, j'ai parlé des ports de Normandie. Ce sont des expéditions qui étaient lancées depuis la Normandie.
D'accord, ça a été les premiers à imiter
oui.
dans ce cas.
Oui, on peut dire que les Normands lancent des expéditions dès le début du XVIe siècle. Par exemple, le récit de... Oh là là, excusez-moi, je manque de plus en plus de mémoire. Le premier récit de voyage français vers le Nouveau Monde, qui est celui de... Dans les premières années du XVIe siècle, c'est un Normand piloté par des Portugais. Hein, y a des pilotes portugais qui se vendaient, évidemment, aux plus offrants. Alors ils naviguaient pas seulement... On a parlé du secret portugais. En fait, ce secret était souvent violé. Quoi. Ils se vendaient aux plus offrants, tout simplement. Alors la Normandie, je vous ai dit les raisons pour... Oui, la Normandie, c'est surtout le territoire... Alors évidemment, il y a Jacques Cartier, le Canada. Ça échappe évidemment à ce contexte-là. Mais en dehors de Cartier, oui, c'est surtout des Normands, oui. Et puis il y a aussi des Périgourdes. Hein. Il y a des gens du Périgord alors, qui partent par Bordeaux. Bordeaux est aussi un point d'accès vers le Nouveau Monde, et à l'époque de Montaigne, par exemple. Mais c'est rien à côté de la Normandie. Et il faut dire que l'amiral de Coligny est amiral de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il est amiral du royaume de France. Il est amiral de la Manche seulement. Il y a un amiral de Bretagne, il y a un amiral de Gascogne, il y a un amiral de Méditerranée. Il n'est pas amiral de toutes les mers de la France. Il est amiral uniquement de la côte normande, la côte... Picard jusqu'aux Flandres, quoi. C'est uniquement là-dessus qu'il a un contrôle. Et c'est avec cette amirauté de France, c'est-à-dire de la Manche, en fait, du nord, quoi, du nord-ouest, quoi. C'est avec cette amirauté de France qu'il va lancer son programme colonial, vous voyez. Oui. Ah oui.
En particulier en cinquième.
Oui, oui.
Parce que c'est
vous avez raison.
Les voyages de découverte. Donc, pour les, on va dire, jusqu'à 15-16 ans, cette édition est tout à fait recommandable.
Ah oui, absolument.
Elle est par extrait, mais
oui.
Elle est assez complète et traduite en français contemporain.
Merci de le rappeler. J'ai oublié de le signaler. C'est vrai. Oui, vous avez tout à fait raison. Et je vous recommande de la lire éventuellement si l'autre vous résiste trop, allez vers celle-là.
Et,
oui.
Et dans le même ordre d'idée, Robert Laffont, défendant Robert Laffont, a publié, pas l'éditeur, mais l'auteur.
Oui.
Robert Laffont a publié La Réboussière, qui est une moquerie à propos des deux récits que vous venez de développer.
Ah oui.
Qui a été au programme du CAPES il y a quelques années.
Oui.
C'est très très drôle. C'est une moquerie du fin du XXe siècle à propos des deux récits que vous avez présentés.
Ah bon, bah je ne connais
pas. La Réboussière de Robert Laffont.
Merci. Mais l'édition de Liry que vous citiez, il y a un instant, est une édition qui est utilisée dans les lycées ou les écoles.
Au collège.
Au collège, ah oui. Ben, merci.
Oui.
Je crois que l'historien Pierre Chaunu,
oui,
que j'ai connu à la fac d'Aix-en-Provence, presque 35 ans, je crois que Pierre Chaunu a découvert Jean Calvin en étudiant pour son travail de doctorat d'histoire, peut-être, le commerce entre l'Amérique latine et l'Europe au 15e ou 16e siècle. Est-ce que vous êtes au courant de ce fait et plutôt, comment l'expliquer? En quoi consistait ce commerce? Que vendaient ou qu'achetaient les commerçants à l'époque? Et comment ce commerce a-t-il pu conduire Pierre Chaunu à découvrir Jean Calvin? Est-ce ça en rapport avec l'histoire que vous avez racontée ce soir ou c'est d'autres circonstances?
Alors, j'ai bien connu. J'ai bien connu Pierre Chaunu. C'était un immense privilège de pouvoir faire sa connaissance. C'était un homme extraordinaire et un immense historien. Alors je ne sais pas très bien comment répondre, mais parler de Chaunu, oui, ça a été un de mes maîtres. J'ai lu certains de ses livres. J'ai pas lu tous ses livres parce qu'il en a écrit beaucoup, beaucoup trop. Mais oui. Alors qu'est-ce que les Français allaient chercher là-bas? On peut répondre comme ça. Enfin, moi, je...
Comment Chaunu a pu découvrir Calvin?
Ouais.
Alors, à travers de ça. Par Léry.
Alors, c'est peut-être Jean Léry. La réponse est peut-être Léry. C'est une réponse possible. Il connaissait évidemment. Et alors, je peux raconter une anecdote si vous voulez. J'ai rencontré Pierre Chaunu sur un bateau. C'était en 1992. Le Mermoz partait en croisière. C'était la croisière de la découverte. C'était pour l'anniversaire, donc pour de la découverte colombienne. Donc en hommage à Christophe Colomb, 5 siècles après, donc, nous avons approximativement fait le même parcours. Et Chaunu était là, sur le Mermoz. Et nous étions tous les deux, tous les quatre. Il y avait Favier, il y avait Zisberg. Et nous étions conférenciers. Nous faisions des conférences, donc, aux excursionnistes. Alors c'était merveilleux. C'est un souvenir que j'ai gardé, un souvenir extraordinaire. Et Chaunu était là. Nous l'avons entendu. Il m'a écouté. Et une partie des livres que j'ai édités, ben, c'est à ce moment-là qu'il m'a fait signer le contrat de ses livres. Hein, notamment « Le Huguenot et le Sauvage », « Une sainte horreur » ou « Le voyage en Eucharistie ». Il y a plusieurs de mes livres que j'ai fait grâce à Pierre Chaunu, et je tiens à lui rendre hommage. Oui, c'est peut-être Léry qui l'a mis.
Et alors, le commerce consistait en quoi? Qu'est-ce qu'on achetait et qu'est-ce qu'on vendait, alors à part l'or?
Alors, pour le Brésil, c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'or. Non, c'était pas l'or, c'était les plumes. Oui, les plumes, ça ne fait pas. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y avait le Brésil. Le Brésil. Le bois de Brésil, oui, c'est ça. Le pau-brasil, hein, ce que les Portugais appellent le pau-brasil, le bois de Brésil. Et effectivement, même les marins normands revendaient leur bois de Brésil sur la place d'Anvers. Hein. Donc, à quoi servait le bois de Brésil? Le bois de Brésil, donc, on le faisait détremper, ça donnait un colorant, ça permettait de teindre les étoffes en rouge. Hein, oui. Alors je ne sais pas du tout physicien ni spécialiste, alors je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Mais le principal produit qui était exploité sur place, c'était le Brésil, c'était le bois de braise. Et notamment, TV et Jean de Léry parlent des Indiens qui se mettent au service des capitaines qui débarquent et qui leur portent le bois de Brésil jusqu'à bord. Hein, qui, en échange de pacotilles, en échange de bibelots, en échange d'étoffes, en échange de quelques armes. Hein. Les Français ont vendu des armes aux Indiens contre les Portugais. Hein. Et les Indiens sont devenus donc des manipulateurs redoutables d'armes à feu, de mousquets, d'arquebuses. C'est des choses qui ne sont pas évidemment très glorieuses peut-être pour nous, mais c'est, voilà. Alors, parmi les autres produits qu'on importait du Brésil, il y avait quelques pierres précieuses, des émeraudes, ou de l'or assez peu, je crois. Enfin, et puis il y avait les plumes qui servaient à la confection des chapeaux. Hein, des chapeaux et puis des robes, les robes à plumes. La mode des plumes commence à se développer à ce moment-là.
On fait avec le bois du Brésil, donc.
Oui.
Jean de Léry raconte qu'on fait également une encre. Et
oui.
Il a écrit ses mémoires, justement.
Oui,
pour
exactement.
Oui. Avec cette encre rouge.
Voilà, exactement. Oui, oui. Oui, ça donne une teinture rouge. Et donc, c'est une teinture, ça peut servir d'encre. Oui, ça peut être une encre rouge. Oui. Alors, non, si vous voulez, le Brésil n'est pas une... Les Espagnols se sont intéressés d'abord, prioritairement, aux terres qui produisaient de l'or. Hein. Le Brésil ne rapporte pas beaucoup... Enfin, dans les différentes relations, il n'y a pas beaucoup... Il cherche de l'or. Alors, par exemple, l'Audonnière en Floride, oui, il cherche de l'or. Hein. Il n'y a pas d'or. Oui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'or en Floride. Il faut aller au-delà, plus loin. Et...
Une dernière question, peut-être ?
Oui. On n'a pas du tout décrit de Villegagnon.
Ah, alors, on a beaucoup d'écrits, mais en latin, et ces écrits sont essentiellement des écrits théologiques. C'est-à-dire que Villegagnon, donc, est revenu du Brésil avant que la France antarctique ne tombe, avant que son royaume ne disparaisse. Il est revenu en 59, donc un an avant. Et dès qu'il est rentré, il s'est mis à polémiquer contre les protestants, hein, pour essayer de rétablir son crédit à la cour. Et il y a toute une polémique extrêmement venimeuse qui se développe pendant ces années-là, dans les années 1560-1562. Il écrit... une quinzaine, une vingtaine de pamphlets à ce moment-là. Mais de pamphlets ou de traités de théologie, hein, qui ont été étudiés. C'est pas un grand théologien, mais il oppose des arguments théologiques aux protestants. Et il est peu question des conditions pratiques de la colonisation. Il s'intéressait plus aux questions théologiques qu'aux questions coloniales. Et on peut penser que c'était un piètre colonisateur de ce fait.
Est-ce que tu peux dire un mot en conclusion de l'après-Brésil chez Jean de Léry? Ce qui devient...
Ah oui, alors Jean de Léry, il devient pasteur. Donc, il est devenu pasteur, enfin, avant. Il est devenu pasteur dès 1562-63, hein, donc une quinzaine d'années avant la publication de son histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. Hein, c'est le titre de son livre. Et après, eh bien... disons que la période la plus aventureuse, la plus problématique de sa vie, c'est justement le début. Hein. C'est son voyage au Brésil. Et c'est ensuite la Saint-Barthélemy.
Hein, et le siège de Sancerre.
Et le siège de Sancerre, qui a des conséquences extraordinaires. Puisque le siège de Sancerre, donc... les protestants de toute la région du centre se réfugient à Sancerre, qui est une ville protestante, et sont assiégés pendant plusieurs mois. Enfin, au total, le siège dure presque un an, puisqu'il s'achève au mois d'août 1573. Donc, c'est le moment où la reine fait la paix, Catherine de Médicis fait la paix avec les protestants, parce qu'il y a le mariage de son fils, le futur Henri III, le mariage polonais. Hein, Henri III est d'abord roi de Pologne, hein, avant d'être roi de France. Et Léry, donc, alors, il est pasteur à la Charité-sur-Loire, et il se réfugie à Sancerre, et son premier écrit va être consacré au siège de Sancerre. C'est l'histoire de la ville de Sancerre. C'est son premier livre publié. Alors, l'histoire de la ville de Sancerre, c'est le récit du siège, hein, le récit de la famine de Sancerre. Et pourquoi Léry le publie-t-il ? Il le publie en 1574, donc un an après la fin du siège. Eh bien, c'est pour se justifier, parce que c'est lui qui a conduit les négociations. Donc il joue un rôle capital dans la reddition de Sancerre aux catholiques, au gouverneur Claude de la Châtre, qui est un gouverneur catholique de Bourges. Donc c'est un texte tout à fait fascinant. C'est le premier texte de Jean de Léry, assez exemplaire, qui prend modèle dans Flavius Joseph, dans la fameuse histoire de Jérusalem assiégée, hein, par Titus, hein, et qui écrit sa relation d'après Flavius Joseph, hein, dont la lecture lui a été recommandée par un humaniste présent à Sancerre. Et après avoir écrit Sancerre, qui est publié donc l'histoire de la ville de Sancerre, publié en 1574, c'est seulement après, je pense, que Léry a commencé à méditer la publication de son voyage au Brésil. Il a sans doute écrit une version avant, mais le texte que nous avons est en partie écrit après cette date. Il est surtout, enfin, d'après ce qu'il dit, c'est une réponse à la cosmographie universelle d'André Tévet, qui est de 1575. Hein, mais il est probable qu'après... Mais Sancerre, son premier texte publié, et l'histoire d'un voyage faire la terre du Brésil, et son second texte publié, on voit les progrès aussi qu'il a accomplis de l'un à l'autre. Alors, la suite de la vie de Léry, à partir de la publication de l'histoire de Sancerre, ben, ça se confond un peu avec l'histoire de son livre. Hein. Le livre rencontre un réel succès, et d'emblée... Hein. Publié en 1578, il est réédité en 1580, donc deux ans plus tard, ce qui prouve quand même qu'il est bien accueilli. Et il annonce d'ailleurs, à ce moment-là, il avait l'intention de republier l'histoire de Sancerre, augmentée, hein, qui a été diffusée en Allemagne, qui a été traduite en allemand. Hein, mais Sancerre a eu moins de succès que le voyage au Brésil. Donc deuxième édition en 1580, troisième édition en 1585. Alors la troisième édition est justifiée par le succès du livre et aussi parce que Tévet réplique à Jean de Léry. Hein. Léry est attaqué par son inconnu, dont il n'avait jamais rien lu, qui avait rien écrit avant. Et tout d'un coup, Tévet se voit accusé d'imposteur, de mensonger. Et toutes ces attaques contre les protestants sont démasquées, sont disséquées. Alors, Tévet répond en 1584, et aussitôt, Léry répond à la réponse de Tévet en 1585. Donc ça, c'est la troisième édition. Il y a une quatrième édition en 1599, 1600, et une dernière édition en 1612. Donc, vous voyez, à partir de l'édition de l'histoire d'un voyage fait à la terre du Brésil, on peut dire que Léry se confond un peu avec son livre. Et j'ai parlé de réédition. Enfin, ce sont plus que de simples rééditions. Ce sont des éditions augmentées. Chaque édition donc, contient, outre les réponses à Tévet, mais des matériaux complémentaires. Je vais essayer de donner... Enfin si l'éditeur ne me censure pas, parce que malheureusement, les éditeurs sont très contraignants aujourd'hui et refusent qu'on publie des textes qui seraient la copie des livres du XVIe siècle. J'ai eu la chance de pouvoir faire cette édition d'un voyage vers la terre du Brésil, donc à une date assez ancienne. Aujourd'hui, je ne pourrais plus la faire. Ce n'est plus possible parce que les livres ne se vendent pas. Les livres en français du XVIe siècle ne se vendent pas. Donc il faut moderniser, il faut jouer avec le texte. Et les mêmes éditeurs qui me proposaient d'éditer Jean de Léry à l'ancienne autrefois me demandent maintenant de le moderniser. Mais de le moderniser, pas seulement l'orthographe, mais même de couper des mots, de changer l'ordre des mots, etc. Et je suis très ennuyé avec Jean de Léry en ce moment. Voilà. Mais il faut le rendre... accessible à des gens non spécialistes. Oui. Ça, absolument.
Bien, merci, François Stringant.
Ben, merci à vous. Merci à vous.
N'hésitez pas, vous verrez ici sur la table les ouvrages de François Stringant, notamment le Huguenot et le Sauvage ou le Sainte Horreur. Donc vous pouvez encore les faire dédicacer, profiter de la présence de François Stringant ce soir avec nous. Vous pouvez encore discuter avec lui aussi. Je vous remercie de votre attention, de votre présence. N'hésitez pas non plus à vous munir d'un programme. La prochaine conférence, ça sera donc justement sur les épidémies hein, et leur application dans la société de 1720 à nos jours avec le professeur de Dedé et Henri Mousset, donc professeur d'épidémiologie et Henri Mousset, historien. Et ce sera non pas au Capitole comme c'est annoncé sur le programme, mais soit à la librairie, soit ici. Consultez notre site pour avoir les dernières précisions. Voilà, bon retour à tous.